bonsoir, ça y est, on y est. C'est l'émission pour un bout de papier de la CLIM collectif de lutte et d'information migrants-migrantes. Ce soir, il y a du monde, il y a du monde dans le bocal, il y a du monde en studio. Avec nous ce soir, des membres du collectif Étrangers Malades qu'on aura le plaisir d'écouter tout à l'heure, qui nous raconteront un petit peu l'actualité de leur collectif et de leurs membres. On écoutera aussi des nouvelles du centre de rétention de Cornebarieux. On écoutera par la suite un petit son glané au détour du quartier Barrière de Paris, rue du Général Hoche, où le matin même était passée une entreprise accompagnée de charmantes personnes en bleu foncé, pour ne pas nommer les Condés, qui étaient venues couper l'eau et bétonner l'accès à la vanne d'arrivée d'eau. Charmant. Et puis on s'est promené un peu, on est ensuite allé dans le quartier des Isards où un bâtiment a été réquisitionné par 230 personnes syriennes. Donc voilà, Riyad nous racontera un petit peu comment ça s'est passé et comment ça se passe encore. Et puis le collectif Étrangers Malades nous racontera ses actualités. Voilà, donc c'est parti, on commence.
On va commencer avec les news du CRA peut-être.
Ouais, alors concernant le CRA, justement, ce n'est ni la rentrée ni les problèmes de santé qui pourraient faire reculer la préfecture Pyrénées-Atlantiques. Deux enfants de 4 et 8 ans se sont retrouvés au CRA avec leurs parents plutôt que sur les bancs de l'école.
Un vol spécial était prévu au petit matin du 1er septembre dernier. Donc c'est un vol qui s'appelle spécial BPA. Ça signifie qu'au lieu des passagers, ce sont des policiers qui sont dans l'avion. Suite à un problème technique sur l'avion, le vol a été reporté. Le tribunal administratif a pu être saisi contre le placement en rétention de trois enfants, dont un petit de 4 mois ayant des problèmes de santé. L'audience était prévue à 10h le surlendemain. La famille est très fatiguée. Ils espèrent que le tribunal va leur permettre au moins de pouvoir honorer le rendez-vous chez le spécialiste pour les problèmes du dernier-né. Espoir vain, la préfecture préférera expulser la famille Pagouni en secret à 9h. Une heure avant l'audience au tribunal.
Et puis au CRA de Cornebarieux ont été envoyées trois personnes depuis le centre de rétention de Coquel qui se situe à côté de Lille. En fait, il faut faire de la place à Coquel en vue d'arrestations prévues à Calais. Donc on prévoit les arrestations. Deux Vietnamiens et un Iranien ont été transférés donc à Toulouse. Selon le journal Nord Littoral, l'heure de vol sur ces avions coûte 4000 euros. Et donc ils vont passer 45 jours à Toulouse en perspective.
Des renvois en Hongrie aussi. Donc la situation actuelle en Hongrie n'empêche pas la préfe de Haute-Garonne de vouloir y renvoyer des demandeurs d'asile. Peu importe que monsieur souffre de graves traumatismes psychologiques, peu importe qu'il ait été enfermé pendant 4 mois en Serbie, à Nice, peu importe non plus qu'il risque en Hongrie, peu importe qu'il ne parle pas un mot de hongrois, tout ça, ça n'empêche pas la préfe de renvoyer en Hongrie. Disant que c'est la Hongrie qui est responsable de l'examen de la demande d'asile. Sur ce point, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie. Affaire à suivre.
Ouais, et puis des renvois en Italie aussi, pour faire du chiffre, peu importe le coût financier. Les pratiques absurdes continuent, et notamment l'expulsion à quelques kilomètres. Plusieurs personnes ayant leur titre de séjour italien valide se sont retrouvées au centre de rétention ces derniers jours. Quelle idée aussi de venir en France pour rendre visite à son père malade pour Kamel ou bien de participer au festival de Riyak pour Anna. Peu importe qu'ils aient le droit de circuler dans l'Union Européenne, ni le tribunal administratif, ni le JLD, donc le juge des libertés et de la détention, ne mettront un terme à leur rétention. Plus de 2 semaines au centre de rétention administrative pour attendre un avion pour l'Italie. Et donc, une des personnes qui est concernée déclare, comme le poste frontière de Vintimille est toujours fermé, les réadmissions se font par avion, 2 semaines pour repartir en Italie. Et il déclare qu'il aurait été 10 jours plus tôt si la préfecture n'avait rien fait. Ce qui montre l'absurdité de la situation.
Et enfin, la préfecture de Haute-Garonne est très active en ce moment, puisque la semaine dernière, elle n'a pas hésité à placer au centre de rétention de Cornebarieux un monsieur polyhandicapé. Heureusement pour lui, le tribunal annulera à la fois l'obligation de quitter le territoire et le placement au centre de rétention, estimant que monsieur devait continuer à bénéficier des soins en France plutôt qu'en Russie. Voilà pour les petites nouvelles du centre de rétention. Et on va envoyer un peu de musique.
On va pas du tout envoyer de musique. Par contre, on va vous présenter un son qui a été récupéré ce mardi 15 septembre. Une entreprise accompagnée de la police est venue une fois encore couper l'eau, puis bétonner les accès aux 20 rues du Général Hoche à Toulouse. Ils étaient déjà venus couper l'eau 3 jours auparavant. Dans des bâtiments réquisitionnés par 19 familles, soit plus de 70 personnes, depuis le 4 septembre. S'en est suivi un échange téléphonique avec Daniel Ferré, qui n'est ni moins que le directeur du développement chez Habitat Toulouse, un bailleur social sur Toulouse, le même bailleur qui d'ailleurs assigne actuellement en justice les personnes syriennes occupant les bâtiments vides du quartier des Isards. Habitat Toulouse n'a pas encore lancé de procédure d'expulsion « légale » entre guillemets sur ces bâtiments, alors que c'est ce que demandent les habitants. La nuit qui a suivi cet entretien téléphonique, la brigade anti-criminalité, la BAC, a tenté de déloger les personnes habitant là, exerçant une pression constante sur le lieu. Habitat préfère donc envoyer les flics plutôt qu'entamer une procédure permettant aux habitants et habitantes de commencer à vivre paisiblement.
Oui, sauf que je pense qu'un minimum de dignité humaine, un minimum de commodité, c'est-à-dire avoir l'eau, l'électricité, du temps que nous avons investi les bâtiments, c'est pas grand-chose demander, parce qu'on vit avec 19 familles quand même, on est plus de 70, à être dans vos bâtiments qui ne sont pour l'instant pas démolis, et qui ne vont pas être démolis avant la fin d'année, parce qu'il n'y a aucun projet qui est déposé à l'urbanisme. On s'est renseigné quand même avant d'investir les bâtiments, donc je pense qu'on a le droit clairement d'exiger à ce que l'eau et l'électricité soient remises, histoire qu'on ait un minimum de commodité le temps que la procédure soit lancée et qu'une date d'expulsion soit fixée, quoi. Est-ce que vous avez une date fixe pour la démolition des bâtiments? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de nous donner une date?
Oui, bien sûr.
Vous avez les papiers en votre possession?
Oui, bien sûr.
Donc vous pouvez nous les fournir alors?
On peut vous les fournir si on a envie de vous les fournir, mais oui, bien sûr.
D'accord, bah, écoutez, ça va être dans nos négociations, puisqu'aujourd'hui, nous on exige déjà de une à ce qu'il y ait une procédure qui soit lancée, ici, au 20 rue Avenue Hoche, rue Hoche, Général Hoche, voilà, donc on sait déjà qu'il y a une procédure qui soit lancée. On souhaite avoir l'électricité qui soit remise et on souhaite avoir des papiers attestant que vous comptez réellement détruire ces bâtiments. Est-ce que vous êtes apte à nous les fournir?
Ah oui, on va vous garantir qu'effectivement, les bâtiments sont en cours de droit. La procédure de démolition, on s'est bien entendu.
D'accord, donc vous parce qu'il n'y a rien qui est posé, il n'y a aucune affiche qui est posée, il n'y a aucun panneau qui est prévu à la démolition, il y a encore des locataires dans un des blocs. Il y a encore 2 locataires qui refusent le relogement parce que vous leur proposez des appartements qui ne leur conviennent pas. D'accord, et durant ce laps de temps, alors qui est pour l'instant inconnu, c'est-à-dire que votre but, nous concernant, ce serait d'entamer des négociations, l'histoire qu'on puisse rester dans les lieux du temps que les locataires soient relogés, ou votre but, ce serait de nous sortir, parce que d'une manière ou d'une autre, vous comptez démolir. Ah non, là aujourd'hui, on l'occupe légalement. Parce que ça fait une semaine déjà qu'on est dans les bâtiments, donc on l'occupe légalement et on attend juste qu'il y ait une procédure qui soit lancée. C'est faux. On est tout à fait apte à recevoir un huissier de justice devant la porte, à lui donner des noms, l'histoire qu'il y ait une procédure qui soit lancée.
Même la police a eu du mal à rentrer quand même. On n'a pas pu rentrer.
Mais il est hors de question de laisser rentrer des gens dans notre propriété. Là, nous avons eu la visite d'aucun huissier jusqu'à présent. Par contre, 2 fois les flics. Mais on veut bien avoir la visite d'un huissier, l'histoire qu'il lance une procédure. Et on sera tout à fait apte à le recevoir, avec un café s'il veut. Non, légalement, on occupe le bien d'un bailleur social qui va laisser vide et vacant, là pour l'instant, 3 bâtiments, alors 137 logements, alors qu'il y a je ne sais pas combien de personnes qui sont à la rue, donc oui, j'estime assez légitime le fait qu'on est dans notre propriété, chez vous.
Bah écoutez, si vous estimez ça, moi j'estime de mon droit d'essayer de protéger les intérêts de l'organisme et de nos locataires.
Ok, très bien. Donc demain, vous nous avez dit à 11h, à 27 rue Roquelaine. D'accord, on sera présent, ce sera plus agréable que de parler par téléphone, je pense. D'accord, très bien. Bah, on continue cette conversation demain, mais concernant l'eau et l'électricité, vous comptez rien faire, quoi, concrètement. D'accord, ben, on verra l'aboutissement de la conversation demain. Alors.
Très bien.
Bonne journée.
Demain.
Au revoir.
Voilà, donc on a entendu Daniel Ferré, qui était directeur du développement chez Habitat Toulouse, en correspondance téléphonique avec les habitants et habitantes du nouveau bâtiment réquisitionné au 20 rue Général Hoche à Toulouse. Hier, il y a eu le rendez-vous hier matin avec dans les locaux d'Habitat. Il ne s'est rien passé, il ne s'est rien promis. Et puis, comme on aurait pu s'y attendre, on l'espérait quand même un petit peu, mais l'eau et l'électricité ne seront pas remises. Et Habitat Toulouse s'en remet à l'État et à ses sbires pour se charger de la situation et du problème. Voilà, on enchaîne avec une petite musique.
No border, no nation, stop deportation.
Solidarität muss praktisch werden.
No nation, no border, fight, no in order.
Feuer und Flamme in Abschiebebehörde.
No border, no nation, stop deportation.
C'était Kolja et Typhoon, No Border, No Nation.
No nation, no border, fight, no in order.
Feuer und Flamme in Abschiebebehörde.
Voilà pour cet intermède musical. Et on vous propose maintenant de continuer l'actualité toulousaine avec la diffusion d'un montage qu'on a été faire en début de semaine. On est passé à la réquisition d'un bâtiment aux Isards, qui est un bâtiment aussi détenu par Habitat Toulouse, dont on vient entendre un de ses représentants là juste avant. Donc c'est un bâtiment qui est situé aux Isards vers le métro 3 Cocu et qui est occupé du coup par plus de 200 personnes, notamment plusieurs personnes et familles syriennes. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'écouter un petit peu comment ça se passe pour eux là-bas. Et puis on reviendra un petit peu sur peut-être les dates des procès, etc., qui les concernent par la suite. On s'écoute ça.
Ça c'est les gens, ils sont venus jusqu'à maintenant, ils sont 46 familles. Presque 220, 230 personnes, là maintenant, ils sont là. Parce qu'ils sont passés vraiment, il y a un mouvement très 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 difficile quand ils sont sortis de Homs. Homs, ça c'est une ville, ils sont rasés complètement. Surtout les quartiers qui sont venus où, à Derbana. Il y a un quartier, ils l'ont rasé complètement. Tous, ils ont perdu leur maison, leur travail, là, tout. Il y en a déjà quand ils sont sortis au Liban, ils sont venus au Liban, ils sont restés 4 ou 5 jours, un mois, 2 mois. Ils sont mis dans sa tête et vont retourner à sa maison. Quand ils sont venus comme ça, il y a plus d'espoir.
Il y a des gens qui sont restés au Liban un peu
Oui, il y en a qui sont restés, ils sont attendus presque 6 mois, 7 mois, il y en a qui sont restés un an. Après, ils n'ont pas de choix parce que le Liban, c'est un pays trop petit où il y en a beaucoup de Syriens qui sont entrés parce qu'il y a un manuel. Il n'a pas de choix, ils sont entrés au Égypte. Il y en a qui sont sortis, ils sont arrivés au Égypte. Ils sont restés au Égypte encore 4 ou 5 mois. Il y a encore des problèmes de politique où ils sont choqués. Ils sont choqués ou qu'est-ce qu'il y a, ils sont venus à Homs. La Syrie. Ils sont sortis, il y en a une partie, ils sont partis en Tunisie, il y en a une partie, ils sont partis aussi en Algérie. Il y en a aussi qui sont partis en Mauritanie direct. Ils sont restés en Algérie parce qu'il y en a qui sont restés un mois, deux mois. En Algérie, elle n'a pas d'aide. Il n'y a pas de maison, il n'y a rien du tout, ils sont restés dans un jardin, ils sont restés à la rue, ils ont passé un moment très très difficile. Il y en a qui sont marchés pendant un mois, à pied. Ils sont traversés de Tunisie à l'Algérie parce qu'il faut le visa. Il faut des visas où il y en a aussi, il y a des gens, ils n'ont pas de passeport. Ils sont passés comme ça. Ils sont restés en Algérie un mois, deux mois, après ils sont entrés au Maroc. Il y en a qui sont restés au Maroc aussi il y a un an et demi, deux ans. Et là, après, ils ont trouvé une solution comme on fait, ils sont entrés en Espagne. Ils sont restés à Ceuta.
À
Ceuta, oui. Ils sont restés, il y en a qui sont restés 6 mois. Ils sont restés 6 mois. Il y en a la plupart, ils sont traumatisés, ils ne sont pas bien du tout, physiquement, par rapport à la santé, par rapport à tout. En plus, qu'est-ce qu'ils sont gaspillés de l'argent, c'est un gros somme de l'argent. Qu'ils sont payés les passeurs, qu'ils sont payés le trajet. Ça, c'est les gens en Syrie, ils ont des moyens. Ils ont des moyens. S'ils n'ont pas de moyens, ils ne sont pas arrivés jusqu'à là. Il y en a beaucoup de gens, ils n'ont pas de moyens, ils sont aussi là. Et là, maintenant, on ne sait pas s'ils sont morts, ils sont vivants, parce qu'il y a plus de contacts, il y a plus de. Après, ils leur donnent la semaine, ils leur donnent des papiers. Un provisoire. Il rentre où il lui dit vas-y à Barcelone ou à Madrid. Et quand il sort de là-bas, il n'y a pas de rien. Il n'y a pas aucun aide, il n'y a rien du tout. Encore aussi, ils sont passés la même chose. Ils dorment à la rue, lui, avec ses enfants, il faisait très très froid au mois de janvier. Après, ils ont trouvé une solution, ils sont entrés en France. Et quand ils sont venus ici, ils ont commencé par deux familles pour en faire. Ils sont restés baguette de Paris. Ils ont trouvé, ils ont abandonné, ils sont... Parce que c'est un squat. Mm-hmm.
Ils habitent toujours dans cette maison?
Non, ils sont changés parce qu'ils sont venus, la police, ils sont sortis. Elle a fait sortir, ils ont fait jeter à la rue. Après, ils sont trouvés là, juste à côté de Cité Blanche. En 3 pièces, une maison de 3 pièces ou 4 pièces, il y a 4 ou 5 familles. Après, il y a les gens de côté, quand ils sont venus, là, les Syriens ils sont là, ils sont venus, ils sont aidés ou bien. Là, après, ils sont montrés ici, ils sont dit, il y en a. Et les meubles, ils vivent complètement.
Il était vide depuis longtemps, cet immeuble?
Je ne sais pas, parce qu'il y en a déjà, mais ils vivent, ça fait un an.
Ah,
c'est pas tous, ils sont vides, parce que moi, quand j'attendais, ils vont le raser, ils vont le lever, cette immeuble. Il y en a des habitants aussi, ici, des anciens, il y en a des gens qui sont, ça fait 25 ans, autant pas, ils sont là.
Il y a des appartements qui restaient habités, du coup?
Habités, dans cet immeuble. Oui. À cause de ça, ils ne sont pas enlevés tout de suite. Là, quand ils sont ouverts ici aussi encore, il y a 3 ou 4 amis, et quand ils voient qu'il y a un appartement vide, et là, ça c'est une famille, ils sont très très grands, un, ils appellent l'autre. Il y en a des maisons, ils sont vides, viens ici. Mais ils sont venus ici.
Ils sont venus. C'était à quelle période à peu près?
Ça, c'est, ils sont venus au mois de juin. Là, après, il y a des gens qui sont passés de 2011. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas rien du tout. Il n'a aucun aide de l'État. J'ai fait un article sur le journal et tout ça. Et ça commence, il y a les gens qui viennent. Il est par rapport à manger, par rapport à tout ça. Il n'y a pas d'association, aucune association. Ils sont venus à une semaine du jour, ils sont venus, comment ça s'appelle, une association, j'ai oublié quand même.
Secours
populaire. Ça, c'est la première fois. Ils sont venus une fois, ils m'ont ramené un camion d'eau. Ça, c'est de l'eau, c'est rien du tout. Il y a 10 jours, ils sont venus, ils sont ramenés. Un bon parti d'en manger de lait, de sucre, de café. Ils sont ramenés. Il y a des choses bien. Après, il y a des gens que c'est eux qui. C'est eux qui me la ramènent à manger.
Du coup, Habita Toulouse a signé des personnes à comparaître devant la justice.
Oh, oui, ils sont passés.
Et vendredi dernier, 5 personnes.
Non, ils sont 3 personnes.
3 personnes,
ils sont passés. Ils ne sont pas été, parce qu'il y a des avocats. C'est eux qui s'occupent. Ils sont portés le jugement, l'audience, jusqu'à le 9 octobre.
Jusqu'au 19
9.
9 octobre.
Le 9 octobre. Là où ils sont pauvres, parce que c'est 46 familles avec des enfants, avec presque 90-98 enfants. Ils sont venus, Lucie est venue enregistrer tout le monde. Ils sont au squat. Hein. Après, quand ils sont envoyés à presque 18 convocations au tribunal. Il y en a le reste, ils sont pas reçus. Ils vont reçus encore d'ici peut-être la semaine prochaine.
Du coup, il va y avoir des.
Ouais, parce qu'ils sont mis, par exemple, il y en a des gens qui vont passer le 18, il y en a qui ne vont pas passer le 24, il y en a qui ne vont pas passer le 28.
Il y a
beaucoup de jugements.
Et est-ce qu'il y a un peu une force collective par rapport à ces jugements-là, ou chaque personne essaye de trouver des avocats?
Non, c'est une seule, il y a 2 avocats, volontaires, hein, pour tout le monde. Donc moi, j'aimerais bien, ils vont trouver un hébergement, ou ils vont le laisser ici, jusqu'à trouver une solution.
Ils ont dit quand est-ce qu'ils voulaient démolir le bâtiment?
Non, il n'y a pas de date.
Donc pour l'instant, ça peut être très logique qu'ils puissent
ils sont là.
Habiter ici.
Oui. Pour l'instant, ils sont là. Et je ne sais pas, la mairie, ou il va trouver un logement en dehors d'ici. Je ne sais pas si. Qu'est-ce qu'elle va prendre, le préfet, la mairie, la décision, c'est où qu'ils vont se décider ça. On attend des jugements. Ouais. Le prochain rendez-vous, il y en a un. Il va passer peut-être le 18. Le 18, il y en a, il va passer le 24, il va passer aussi le 28. Il y en a aussi le 30 aussi. Il va passer. on n'a pas de réponse ni la milieu, ils sont venus, les premiers, le préfet, ni à personne.
Non, ils sont pas venus.
Ils sont pas venus.
Pour le moment, c'est l'incertitude du coup. Pour le moment, vous savez pas en fait.
Je sais pas. Je sais pas.
Et comment ils vont dire ça, les gens ici?
Ils viennent toute la journée, on voit de la... ils sont devant vous. Le monde regarde la télé un petit peu, il voit la télé, il voit les informations, qu'est-ce que se passe en série, qu'est-ce que se passe. Après, ils s'ennuient, ils descendent en bas, et le monde tout à l'heure comme ça. C'est la même vie. Il y en a qui cherchent un travail, mais là maintenant, en France ici, il y en a des gens, il a des papiers à trouver pas un travail. Mais où il va demander un travail, vous n'avez pas des papiers, ou pas. Parce qu'ils n'ont pas de papiers, ils sont bien. Oui, là, je sais pas, c'est... Je sais pas comment ça va finir. Je
sais pas comment ça va finir. Il reste pas tout le monde.
Par rapport à la situation, par rapport à le logement, par rapport au travail, par rapport à l'argent, parce qu'il y a des gens qui sont gaspillés, il y en a qui sont gaspillés jusqu'à 45 ou 50 000 euros. Jusqu'à ils sont arrivés ici. Et là maintenant, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de... Il n'y a plus rien.
Donc voilà, de retour sur les studios, vous venez donc d'entendre un petit montage qu'on a été faire sur la réquisition des Isards. Bon, on s'excuse un peu pour la qualité du son, c'était pas top top, mais bon, on espère que vous avez pu suivre un peu ce qui se disait. On en profite pour faire un petit rappel du coup de la répression aussi qui les touche. Donc il y a eu un procès qui était appelé vendredi dernier, le 11 septembre. Celui-là, il est reporté finalement le 9 octobre. Et dans les procès à suivre, là, sur la fin septembre, il y a le 18, le 24, le 28 et le 30, où voilà, il y a des personnes présentes aux Isards qui sont convoquées au tribunal d'instance.
Ouais. Mais tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire aussi un petit peu là sur la situation des Syriens? C'est vrai que du coup... On en parle beaucoup, autant au niveau national qu'au niveau local. Et on se rend compte qu'en fait, la logique de nos dirigeants, elle a toujours été la même. Et on a l'impression qu'elle restera toujours un peu la même. À savoir que de trier les migrants entre les bons et les mauvais, il y a de moins en moins de bons, il y a de plus en plus de mauvais. Et là, on a l'impression qu'un peu quand même, enfin je sais pas, corrigez-moi si je me trompe, mais en tout cas, on a l'impression quand même qu'ils ont trouvé... où ils ont été obligés de trouver quelques bons migrants et donc du coup ils nous donnent quelques quotas à respecter pour que le système ait une couverture un peu humaine, etc. Sauf que derrière, on l'a vu, hein, les centres de rétention ils sont pleins, les squats ils se font virer, à Calais c'est toujours autant la merde, les murs s'érigent partout et c'est pas parce qu'on dit qu'on va accueillir 24 000 migrants syriens que ça laisse pas des centaines de milliers d'autres dans la merde, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne avec de la musique?
Non, on peut peut-être préciser aussi les déclarations de notre cher maire de Toulouse, Monsieur Moudinc, qui lui, François Hollande daigne accueillir 24 000 Syriens, quand on sait par exemple qu'il y a 36 000 villages en France, ça paraît un petit peu ridicule. Et donc voilà, et Moudinc, lui, par contre, n'en accueille aucun. Hein, voilà, donc c'est aussi pour faire un petit parallèle. Pour lui, c'est pas des responsabilités de la mairie. L'État doit faire son travail et s'occuper de ces questions le plus fermement possible, hein, comme à son habitude. Donc voilà, donc écoute, Moudinc, on t'aime. Hein, je tenais à le préciser, ça me fait plaisir de te le dire. Et voilà.
Ouais. D'ailleurs, on peut lui dédicacer la prochaine chanson, peut-être.
Ah, on va faire ça.
Bon.
Pour toi, Jean-Luc.
Merci, Jean-Luc.
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place au plus. Depuis June, donc encore moins d'espace de taille. Et nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est au conséquent. On peut nous dire que la France avance alors qu'elle prend. Par la répression, stoppe et n'est la délinquance. S'il vous plaît, un peu bon sens, écho. Ne régleront pas l'état d'urgence à tous ceux qui vont.
riche, mais on fait par le feu ce qui a mis, sans être le mieux, pour qu'on nous prenne un peu plus en sérieux. Oh,
il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ses enfants. Parce que c'est honte des leçons à mon goût. Mais comme la même, la coupe est pleine. Tu parles en scène, nos chansons belles. Alors, arrête ton plutôt que cela traîne, on traîne. Même encore plus d'aime. Une nation ne pourra s'élever ce système.
Voilà, Jean-Luc, tu auras certainement reconnu le Suprême NTM, c'était spécial dédicace pour toi. On est avec le collectif Étranger Malade.
Voilà, on est avec trois membres du collectif Étranger Malade qui vont nous donner des nouvelles, un peu des situations un peu compliquées en ce moment.
Oui, bonsoir. On va juste un peu rappeler qui est le collectif Étranger Malade, brièvement. Alors, nous sommes des personnes concernées par le droit au séjour pour raison médicale. Notre collectif a été créé suite au durcissement de la loi qui permet normalement aux malades étrangers qui n'ont pas accès à une prise en charge dans leur pays d'origine le droit de bénéficier d'un titre de séjour, sous certains critères bien sûr et certaines conditions. Bon, nous avons décidé d'être acteurs et non pas spectateurs dans la lutte pour obtenir nos droits et nous avons choisi de ne pas subir seule l'administration, c'est compliqué, mais collectivement. En se soutenant pour sortir de l'isolement, en s'informant et en se mobilisant pour les uns et les autres. Voilà, c'est ça le collectif Étranger Malade. Et en ce moment, voilà, la préfecture voilà, nous met des obstacles. Il y a des pratiques très abusives de la préfecture en ce moment. Pratiquer sur les étrangers malades.
Est-ce que tu peux expliquer un peu plus précisément ce que fait la préfecture en ce moment et dans quel rapport vous êtes par rapport à la préfecture ?
En fait, déjà, on va revenir un petit peu en arrière. Le durcissement a commencé après la loi Bessant en 2011 qui a restreint l'accès à ce droit, le droit au séjour pour raison médicale. Et maintenant, aujourd'hui, nous subissons des multiplications de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français. C'est clairement une politique d'expulsion massive qui est pratiquée sur des malades étrangers résidant en France, pour la plupart depuis de longues années. Et personne n'est épargné, quelle que soit sa maladie ou sa pathologie, qu'il soit atteint de VIH, d'hépatite ou de cancer ou de maladie grave en général, dont la faute de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui est dangereux pour ces personnes-là. Et la préfecture envoie tout simplement des malades étrangers vers la mort, certaines, en leur refusant droit de se soigner, sachant que la plupart ont découvert leur maladie ici en France. Ils séjournaient et normalement, régulièrement, ils ont découvert leur maladie. Et apparemment, la préfecture préfère les étrangers quand ils sont en bonne santé, apparemment. Et voilà, on est en train de, enfin, on a commencé à se mobiliser il y a déjà 2 ans. On a fait pas mal de mobilisations de soutien à des personnes expulsées ou en voie d'expulsion. On continue toujours à subir ces expulsions, même au sein du collectif. Il y a des membres qui se sont retrouvés sans titre de séjour, malgré qu'ils étaient en situation régulière depuis plusieurs années. Travail stable, logement, et maintenant ils sont sous OQTF. Ce qu'on dénonce aujourd'hui.
C'est ça la nouveauté, c'est qu'il n'y avait aucun souci pour la plupart de ces personnes depuis un moment, et que là, sans raison, il y a des OQTF, des obligations de quitter le territoire qui sont tombées, et du coup, la mobilisation, elle est plus centrée là-dessus. Comment ça se passe avec la préfecture? Qu'est-ce que vous allez attendre de...
Oui, déjà, juste pour rappel que ces personnes renouvelaient chaque année leur titre de séjour, c'est-à-dire ils sont toujours dans le combat administratif et de l'autre côté, leur combat contre la maladie, c'est-à-dire la raison de leur présence ici en France. Et dans ces deux combats, c'est-à-dire il y a un renouvellement chaque année. C'est-à-dire on ne finit pas avec l'administration, on est toujours... on demande à chaque année, presque chaque année, le rapport médical du médecin pour que le médecin de l'agence régionale de santé envoie son avis à la préfecture qui doit normalement... statuer sur est-ce que la personne doit rester ou pas en France et voir si les critères existent ou pas pour ces personnes-là. Alors nous, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? On demande tout simplement que la loi soit respectée parce qu'il y a une loi normalement qui protège ces personnes. Bien qu'il y aurait plusieurs choses à améliorer dans cette loi, surtout pour les parents accompagnants d'enfants malades et pour les accompagnants d'adultes malades. Et voilà, et on demande aussi la simplification de la procédure, car le malade étranger, comme je viens de le dire, doit subir 2 combats à la fois, administratif et contre sa maladie. C'est pas facile. Et il y a plusieurs choses aussi. Nous demandons la fin des pratiques abusives de la préfecture contre les malades étrangers. En ce moment, que fait le préfet? Fait des contre-enquêtes. Ça, c'est nouveau. Le préfet ignore l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour demander un autre avis au pays d'origine de ces personnes, pour voir si cette prise en charge ou le traitement existe ou pas. Et ça, c'est une pratique illégale parce qu'elle n'est pas notée dans la procédure pour demander un titre de séjour pour raison médicale. Ça, c'est nouveau. Et on se demande pourquoi, c'est quoi l'utilité du médecin de l'agence régionale de santé si on demande à un autre médecin, même si... La préfecture n'est pas liée par l'avis du médecin de l'agence régionale. On sait qu'elle n'est pas liée par cet avis, mais elle n'est pas non plus liée par l'avis du médecin conseil. Et ce qui est grave, c'est que la préfecture, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle remet à ce médecin. Parce que normalement, elle n'a pas de détails médicaux de ces personnes-là. Elle n'a pas à connaître la maladie des personnes. Qu'est-ce qu'elle remet à ces médecins? Alors, soit il ne reçoit pas tous les documents nécessaires pour donner leur avis par rapport à l'existence ou pas du traitement, ou bien elle donne des documents sans la permission des personnes. Et ça, c'est illégal. Elle joue toujours au docteur. La préfecture continue à jouer au docteur. Et tout de même, on va proposer à ces médecins conseils de commencer par conseiller leurs propres dirigeants de se soigner chez eux, puisqu'ils prétendent l'existence d'une prise en charge dans leur pays. quand ils disent qu'il y a une telle prise en charge dans tel pays, alors je pense que pourquoi leurs dirigeants continuent à venir ici en France. Moi, je pense que, et on pense que le rôle de du médecin agence régionale de santé est ignoré. La préfecture préfère avoir d'autres avis qui correspondent à ces décisions.
Est-ce que tu sais s'il y a des recours qui ont été faits contre cette procédure-là, c'est-à-dire d'aller demander un avis
Non, jusque-là, non. Enfin, il y a des procédures au tribunal administratif par rapport à l'existence ou pas, parce qu'on est obligé de ramener des arguments, nous aussi, pour prouver que la prise en charge existe ou pas. Mais ça, c'est nouveau. Ça, c'est une pratique nouvelle de la préfecture.
Oui, du coup, je venais un peu sur la loi Besson que Frisa nous a parlé tout à l'heure. Et en ce moment, il paraît qu'il y a déjà une nouvelle loi qui vient encore écorcher la loi Besson qui a déjà dévasté tant de malades étrangers. Et avec cette nouvelle loi, le secret médical n'existera plus en ce qui concerne des malades étrangers qui demandent un titre de séjour pour soins, puisque la future loi prévoit le transfert des compétences de l'Agence régionale de santé à l'OFI, qui est l'Office français des migrations et d'intégration, qui est un organisme sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, tout ce que le collectif des étrangers malades demande au préfet, c'est juste de respecter la loi. Déjà, la loi qui déjà n'est pas bien statuée, n'est pas respectée. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous subissons? Nous avons des demandes, des documents qui ne sont pas autorisés au guichet. On a la remise d'un accusé de réception en lieu et place d'un récépissé dans l'instruction du dossier de la première demande. Nous avons les délais d'instruction des dossiers qui sont assez longs, alors que les étrangers malades ne bénéficient de rien. Et je crois que, contrairement aux demandeurs d'asile ou autres, les étrangers malades n'ont pas de ressources. Donc, ce qui nous pénalise longuement lorsque nous avons ce délai très long d'étudier des dossiers. En plus de ça, on a des tâches énormes qui nous sont demandées, qui nous sont exigées pour l'obtention de ces droits. Et en plus, il y a l'accès discriminatoire à la carte des résidents. On constate que ce n'est pas. Il y a une partie de la population qui est défavorisée. Je parlerai à peu près de l'Europe de l'Est ou de l'Afrique noire où pratiquement ça n'existe plus aujourd'hui un titre de séjour pour raison médicale. Et aussi, il y a des traitements subjectifs des dossiers. Nous avons eu au collectif des gens porteurs d'une même pathologie qui ont instruit un même dossier au niveau de la préfecture et qui ont eu des réponses différentes. Donc ça, on ne comprend pas. Et puis nous attirons vraiment l'attention du préfet à ce qu'il regarde cela de plus clair.
Que les décisions ne soient pas prises arbitrairement. Pardon. Oui. Et on a déjà posé ces questions-là parce qu'il y a eu une réunion, un rendez-vous avec le médecin de l'Agence régionale de santé, avec le CTDSE, qui est le collectif toulousain pour le droit à la santé des étrangers. Et on lui a posé la question, justement, comment vous procédez? Quelles sont vos ressources pour dire que tel traitement ou telle prise en charge existe? Bon, la réponse est toujours les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé qui ont des rapports chaque année. Ces rapports n'ont pas changé depuis, c'est-à-dire les chiffres des nombres d'hôpitaux, des médecins, nombre de médecins, de médicaments. N'ont pas changé, c'est toujours les mêmes. On ne sait pas pourquoi la politique a changé. Et on a demandé aussi par courrier au préfet. Déjà, il a refusé de nous recevoir pour lui poser ces questions-là. On a envoyé un courrier au préfet, au ministère, pour demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a argumenté plutôt. Le préfet, il a dit que ces pays-là se modernisent par magie. C'est-à-dire, aujourd'hui, le traitement n'existe pas, la prise en charge n'existe pas. Il y a quelques mois après, par magie, le traitement et la prise en charge et le système sanitaire changent et se développent par magie. Et aussi, il a justifié que, enfin, il a argumenté que les demandes ont augmenté, les demandes de titre de séjour pour raison médicale ont augmenté, alors qu'il y a des associations comme la Case de Santé, par exemple, qui a fait des stats. Et les études montrent bien une stabilité dans les premières demandes. Il n'y a pas de changement, changement important. Par contre, ils ont constaté aussi une augmentation sans précédent dans les refus de séjour. Exemple, 65% de refus en 2013 contre 7% dans les années précédentes. C'est qu'il y a un changement de politique radical, si on peut dire. Et on se demande pourquoi, car les chiffres, je pense, parlent d'elles-mêmes. Et pire encore, ces refus de séjour concernent de plus en plus les personnes qui sont en situation régulière avec un renouvellement régulier, c'est-à-dire situation stable, un logement, un travail, un contrat, et d'un seul coup, quand ils sont dans la quatrième renouvellement, dans la quatrième carte ou quatrième renouvellement, comme disait Mahmouda, il y a un refus et une OQTF. On se demande pourquoi.
C'est-à-dire le moment où ils pourraient passer résident.
Voilà. Bon, peut-être c'est ça. Ce qu'on essaye de comprendre, mais il n'y a pas de réponse. Pourquoi, au bout de 4 ans, il y a eu plusieurs situations comme ça, comparables. Et c'est pour ça, peut-être, c'est par rapport à la résidence. Parce que quand on est résident, quand on a une résidence de 10 ans, on n'est plus embêté, quoi. Sauf que quand on a une carte de séjour d'un an, on est dans le renouvellement, dans la procédure, et c'est plus lent.
Du coup, je vais intervenir un peu sur... je vais abonder dans le même sens que Faïza, à propos du renouvellement du titre de séjour. Parce que, bon, au départ, bon, les responsables de la préfecture nous ont dit que quand tu as plus de 10 ans, tu accèdes à la carte de résident. Maintenant, ils ont instauré une structure en vous disant que avoir passé 10 ans n'est pas. Enfin, avoir la carte de résident n'est pas automatique. Donc ils ont créé une structure au sein de la préfecture qui demande à ces personnes-là de passer à une audition, une commission qui est chargée de vous interroger et vous demander qu'est-ce que vous faites ici, enfin, les preuves que vous devez apporter afin que... Bon, ça, c'est à l'appréciation du préfet. Malgré que vous fournissez ces preuves-là, bon, l'avis devient défavorable. Disons que on vous fait croire que disons l'avis de la commission n'empiète pas sur la décision que le préfet va prendre. Or, c'est dans le même sens, parce que si l'avis est défavorable, le préfet ne peut pas, désavouer ses membres-là. Vous octroyez ce titre de séjour. Ah, dans ce fait, il ne tient pas compte de ces preuves-là. Moi, c'est ce que je réfute, quoi. C'est ce qui me met en colère. Et en plus, quand l'étranger malade qui arrive, qui demande, c'est un droit pour lui d'avoir ce titre de séjour. Et puis c'est l'article qui le dit, c'est le droit qui le dit. Mais quand vous lui donnez ce titre-là, avec ça, il peut se prendre en charge, travailler, malgré qu'il n'est pas totalement, anéanti, mais il peut quand même se déplacer, faire trouver du travail et puis se prendre en charge.
Mais le but de ces pratiques, c'est sans doute faire une certaine pression sur ces personnes pour les maintenir dans la précarité et peut-être se dire qu'ils vont repartir chez eux. Et et ça va faire un effet désastreux sur leur état de santé qui est déjà fragilisé par la maladie.
Mais même si vous lui enlevez ce titre de séjour, mais ça crée encore pas mal de problèmes. Bon, le gars, la personne ne partira pas, bon, il va insister, enfin, il va se battre.
Parce qu'il n'a pas le choix.
Afin qu'il ait son titre de séjour. Donc, ce n'est pas un argument qui peut inciter la personne à renoncer à sa démarche. Non, non, non. Au contraire, c'est lui donner la force. Et puis, bon, c'est comme les migrants qui viennent. Là, bon, rien ne les empêche. Hein, bon, ils viennent parce que bon, de l'autre côté, ça ne va pas. Donc, quel que soit l'obstacle que vous allez crier et tout, ils viendront. Donc, comme on le dit, il y a certains chercheurs, enfin certains spécialistes qui disent que bon, mais là, cette migration est bénéfique pour tout pays. Vous voyez, bon, il n'y a que bon, la France qui, ma foi, hésite un peu et qui crée un peu des problèmes. Et puis bon, avec l'étude des dossiers, ça met du temps. Or, en principe, ils peuvent, disons, statuer sur ce dossier en deux à trois mois pour donner la décision. Parce que de laisser la personne dans l'impasse comme ça, sans résultat, bon, ça fait que y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Quoi. Voilà.
Peut-être du coup en quelques mots, peut-être, parce que du coup le temps tourne. Je sais pas si.
Peut-être avez... juste comment s'organise le collectif des étrangers malades pour comment ils se mobilisent contre ça?
On essaie de faire une campagne pour défendre le droit au séjour pour tous et toutes, bien sûr. Et voilà, mener des mobilisations, mener une campagne et faire des mobilisations, et même s'il le faut, interpeller les médias pour parler de ce qui se passe. Parce que je pense que les médias sont concentrés sur les réfugiés. Mais il y a aussi des personnes qui sont dans le danger de la mort. S'ils sont envoyés dans leur pays d'origine, ils sont envoyés vers la mort aussi. Il faut qu'on parle de ces personnes-là qui sont dans l'obscurité, que personne ne parle d'eux. Et on soutient bien sûr le droit au séjour pour tous et toutes, pour les réfugiés, pour les sans-papiers, pour les étrangers malades.
Pour finir, peut-être que vous pouvez rappeler les contacts du collectif.
Oui, on se réunit tous les vendredis à la case de santé à partir de 16h. Nous avons un contact mail, c'est collectif étrangermalade31@gmail.com.
Et la case de santé, c'est place Arnaud Bernard.
Voilà, tout à fait.
Oui. Tu voulais intervenir?
Bon, bah, c'est juste pour finir parce que il y a quelques mois, quand j'étais sur le lit d'hôpital, j'avais fait une lettre au préfet. Mais comme je n'étais pas sûr qu'il allait la voir ou le recevoir, je me suis dit que bon, je profiterai de l'occasion d'être à Canal Sud pour lire cette lettre-là. Je ne sais pas si on a suffisamment du temps. Voilà. Donc, à monsieur le préfet, depuis mon arrivée en France il y a plus d'un an, ma vie n'est qu'un long cauchemar avec des murs d'hôpital en toile de fond. J'ai déjà été hospitalisé cette fois et les pronostics de guérison, d'après les médecins, ne sont pas très certains. Monsieur le préfet, je ne suis pas venu vivre en France, mais je suis plutôt venu en France pour vivre, pour retrouver la vie. Cette vie qui, dans mon pays d'origine, m'échappait à petit pas suite à cette maudite maladie qui m'accable depuis des années et dont le traitement n'y est pas disponible. Je ne savais pas, monsieur le préfet, qu'en me donnant tant de mal, pendant que je traversais des frontières afin de retrouver la France, terre d'accueil, je deviendrais pour vous une nouvelle proie à votre besoin insatiable de manipulateur, puisque aujourd'hui je suis devenu la cible de tout ce qui vous est impossible. Le taux de chômage n'arrête de croître en France. Pour vous, c'est à cause de moi alors que je n'ai pas le droit de travailler. La CAF dépense trop d'argent. C'est encore à cause de moi parce que, pourtant, je ne perçois aucune ressource. La France vit dans l'insécurité. C'est toujours à cause de moi alors que je suis moi-même en danger. Vous me condamnez à mort, monsieur le préfet, en me refusant de rester, me faire soigner en France, pays où est né le droit de l'homme, alors que vous n'avez même pas pris le temps de regarder mon dossier à fond. Ne me jugez pas. Ne me mettez pas sur le dos des jugements des autres, des blâmes des autres, des douleurs que les autres ont provoquées. Essayez de ne plus prendre sur moi tous les bobos des autres et les vivre comme s'ils m'appartenaient. Je ne vous demande pas, monsieur le préfet, d'agir par ou pour l'amour, mais juste d'appliquer l'article L313-11-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est une loi que vous devez connaître, je l'espère par cœur. Arrêtez de créer une sorte de France à vous, où la réalité est différente de celle qu'on vit à l'extérieur, de celle qu'on croit être la vraie. Je préfère m'arrêter là, monsieur le préfet, et de ne pas vous faire trop ressentir mes émotions, car vous pourriez croire que je suis encore en train de vous manipuler. Enfin, monsieur le préfet, je ne sais même pas si vous lirez ces mots ou si vous écouterez ces mots, mais je prends quand même le temps de les dire et de les écrire. Pourquoi? Moi, je le sais. Pour moi, car j'ose croire que tout arrive toujours pour nous ouvrir le chemin pour plus de conscience. Je vous remercie.
Et qu'est-ce qu'on dit?
Jamais, les sans-papiers ne lâcheront jamais. Merci à tous les trois.
Merci beaucoup au collectif. Merci beaucoup. Et donc, quelques petits rendez-vous avant de rendre l'antenne. Tout d'abord, demain.
Ouais, demain, il y a un appel à une mobilisation en soutien aux personnes donc, qui sont sur l'île du Ramier, aux gens de la Scrosse, donc qui sont sur la réquisition rue du Général Hoche, et par rapport à la réquisition des Isards. Voilà, le rendez-vous, c'est à 13h au métro Jeanne d'Arc.
Manif samedi 19, du coup samedi qui vient, le rendez-vous est donné à 14h30 au square Charles de Gaulle, c'est le square qui est juste derrière la place du Capitole, pour crier notre soutien et notre solidarité pour tous les migrants et pour tous les réfugiés.
Et puis samedi 26 également, une manif organisée notamment par la CLIM contre les murs et pour l'accueil de tous les migrants et tous les migrantes. À l'heure où les responsables politiques français se vantent d'accueillir 24 000 réfugiés syriens, leur politique d'expulsion, d'enfermement et de fermeture des frontières n'ont jamais été aussi dures. Gouvernement et opposition opèrent un tri entre bons et mauvais réfugiés, entre émigrés dits économiques et réfugiés fuyant la guerre. Sous couvert d'humanisme, ils renforcent et légitiment leur logique de quotas et d'immigration choisie. Face à cette hypocrisie, nous continuerons de soutenir tous les migrants et toutes les migrantes, et de lutter contre les politiques migratoires répressives de l'État français et de l'Europe forteresse.
Liberté de circulation et d'installation pour tous et toutes.
Régularisation de toutes les personnes sans papier.
Ouverture des frontières.
Manifestation donc samedi 26, rendez-vous à 15h au métro François Verdier devant le monument aux morts. Et voilà.
Et dimanche 4 octobre, à la chapelle rue Daniel Casanova, il y aura la projection d'un documentaire sur la frontière gréco-turque qui s'appelle « Et nous jetterons la mer derrière vous », et je le dis bien. voilà, l'ouverture des portes se fera à 18h et le début de projection vers 19h.
Et puis la prochaine émission de la CLIM, c'est comme chaque mois, tous les troisièmes jeudis du mois, ce sera le jeudi 15 octobre à 19h sur 92.2 Canal Sud.
Voilà, c'est un peu la fin. On donne vite fait les contacts du collectif de la CLIM, donc c'est le collectif de lutte et information migrante. Donc pour nous envoyer un mail, c'est clim, C-L-I-M-E, @riseup.net. Il y a un blog aussi où vous avez toutes les infos et vous retrouvez notamment les missions pour un bout de papier. Donc c'est clim.noblogs.org. clim.noblogs.org. Et on peut annoncer déjà la prochaine réunion, les réunions du collectif qui se déroulent chaque lundi soir à 19h dans la salle du haut de la pizzeria Belfort, dans le quartier de Belfort.
Place Belfort. Eh bien, bonne soirée à toutes et à tous.
Merci à tout le monde d'être venu.
À bas les frontières.
À bas les frontières.
À bas les frontières.
De l'air.